Bonjour à tous. Comment repenser les sciences sociales? Sur quoi se fondent-elles et à quoi servent-elles? Sont-elles en train de disparaître sous l'effet de la fragmentation? On ouvre la discussion aujourd'hui avec le philosophe Patrice Maniglier qui publie la correspondance étonnante de deux fauves, ceux du structuralisme, Jacobson et Lévi-Strauss, et puis avec Alain Caillet qui appelle avec un collectif d'auteurs à réunifier les sciences sociales en une à partir de 12h55. Mais d'abord, à l'occasion de la sortie du film de Bruno Podalydès, retour sur une figure de la littérature populaire, Bécassine, héroïne de bande dessinée créée par le dessinateur Joseph Pinchon. La jeune Bretonne a accompagné des générations de lecteurs, mais aussi provoqué la colère des Bretons qui refusent que soit associé à leur région ce personnage un peu sot, mais candide et le cœur sur la main. Bruno Podalydès et Pascal Horry sont nos invités, à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bruno Podalydès, réalisateur et acteur aussi, vu récemment dans Beau soleil intérieur de Claire Denis. À ses côtés, l'historien Pascal Horry, spécialiste d'histoire culturelle, professeur émérite à la Sorbonne, co-auteur de l'art de la bande dessinée, entre autres. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Un film avec Emeline Bayard et Karine Villard, avec Michel Vuillermoz, Denis et Bruno Podalydès. Bécassine grandit devant votre caméra, Bruno Podalydès. Elle rêve d'aller à Paris. Sur la route, elle croise la marquise, qui l'engage pour s'occuper de la petite Loulotte. Elle ira finalement au château et la capitale restera comme un lointain rêve. Bande annonce.
Bécassine !
Vous cousez ces initiales RG ici et sur les autres serviettes, idem.
Oui, madame.
Si tu te débrouilles bien, tu pourrais aller à Paris.
Tu t'appelles comment, ma jolie?
Loulotte.
Et le papa, c'est vous?
Non, mais Adalbert, ça suffit.
Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison?
Nous n'avons plus de nourrice.
Oh, non. Dites, enfin, quand même, vous n'y pensez pas. Mais vous, vous croyez où?
Bonjour, Bécassine. Bonjour, Madeleine.
Bonjour, mademoiselle Châtaigne.
On a vu passer trois nourrices en un mois. Alors attention, mademoiselle Bécassine.
C'est l'heure du biberon.
Et c'est automatique.
Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin.
Une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Ainsi avez-vous pensé votre Bécassine, semble-t-il, à l'écran, Bruno Podalydès. Elle est à la fois très terrienne et lunaire, ce qui en fait une femme double.
Lunaire et solaire, même. Oui, oui, c'est pour ça que je me moque pas d'elle et que quand on regarde un enfant, on est attendri par... Ces fautes d'orthographe ou ces chutes, j'étais pas du tout dans la moquerie, ni pour elle, ni pour la Bretagne, évidemment.
Vous avez apporté un soin tout particulier à traduire, reconstituer son imaginaire entre poésie et féerie. C'est une héroïne, on peut dire que tout est merveille, du manège enchanté jusqu'à la petite goutte de rosée qui peut aller se poser sur la peau de l'enfant. D'ailleurs, à la petite Loulotte, elle dit « ce qui te touche, là, c'est le vent ». C'est l'explication qu'elle lui donne. C'est un personnage très, très fin dans cette manière qu'elle a aussi de regarder le monde et de s'extasier, de s'émerveiller devant tout. Et à travers elle, on arrive à redécouvrir des choses qui semblait évidente pour nous. Elle pose un regard candide sur le monde qui l'entoure. Elle nous invite à réinterroger peut-être la fonction première du téléphone, de l'électricité, de l'automobile et finalement de l'arrivée du progrès et de la technologie dans les campagnes à cette époque particulière dont on va reparler avec Pascal Horry. C'est aussi ça qui vous a plu chez cette héroïne que vous avez dû, comme nous tous, connaître à travers la bande dessinée.
Oui, grâce à Bécassine, on reprend conscience très simplement de notre confort quotidien. Je trouvais ça pertinent aujourd'hui, alors qu'on est dans un doute terrible envers le progrès technique, de reconsidérer le fait que ça reste magique grâce aux hommes, à l'invention des hommes, de commuter un interrupteur et d'avoir l'électricité instantanée ou l'eau chaude à volonté en tournant un robinet. Et je pense que les enfants peuvent encore comprendre, car j'ai vraiment pensé à eux en permanence pour ce film-là, comprendre la chance qu'on a, tout bêtement.
Pascal Horry, vous avez vu le film, avis critique?
Oh, avis critique, en tous les cas, favorable, dans la mesure, c'est un film de grands enfants. parlant à des grands-enfants. Moi, je me sens concerné, déjà. En effet, ça désamorce tous les pièges, parce que il y a quand même l'idée qu'il y a une condescendance sociale de la part de ceux qui ont écrit ou dessiné ces aventures. Il y a l'idée qu'il y a une condescendance quasiment ethnique à l'égard des Bretons, etc. Mais tout ça est pulvérisé par le film, parce que le film est ailleurs. Et il confirme alors ce qu'on va peut-être dire dans un instant de la bande dessinée, c'est-à-dire que le temps passant, Bécassine, qu'on moquait, devient l'actrice de son propre destin et du destin des autres personnages. Son aventure commence en 1905, se termine dans les années 60. Dès 1930, elle a le pouvoir, Bécassine. Donc ceux qui attaquent a priori n'ont pas lu Bécassine ou n'ont pas vu le film.
Oui, puis parce que par ses inventions, elle va finir par sauver la Maisonnée. Vous nous dites qu'elle n'est pas bretonne. Elle n'est pas bretonne, Bruno Podalydès, votre Bécassine?
Elle peut l'être si les Bretons la réadoptent. J'ai essayé de pas... la campagne que j'ai filmée, par exemple, correspond pour moi aux images Rossignol que vous connaissez peut-être, où on a dit comme ça le bocage, la gare ferroviaire. Donc c'était une espèce d'idée comme ça du château, de la campagne. Je voulais être plus large, un peu comme un conte de fées, quoi, sans entrer dans une... Clocher les Bécasses n'est indiqué sur aucune carte, que je sache.
Ça, c'est son village d'origine, dans la bande dessinée, Pascal Horry.
Oui, j'ai cru voir au générique que ça avait été tourné essentiellement en Normandie, d'ailleurs je sens une petite dimension normande. Voilà. Et il y a un seul moment où il y a une référence à la Bretagne, mais c'est un hommage au dessin de Pinchon, puisqu'il faut citer le nom de ce génial dessinateur, c'est quand effectivement le personnage de l'oncle Corentin est en costume breton. Mais comme dans la bande dessinée, évidemment ça pourrait faire tordre le nez à certains nationalistes bretons dont j'en joue un petit peu les perspectives. Mais c'est simplement un hommage qui est rendu, à mon avis, au dessin lui-même. Ce n'est pas du tout une attaque contre la bretonitude, qui d'ailleurs se défend très bien.
Alors quand elle doit coudre, Bécassine, par exemple, des initiales sur des serviettes et que sa patronne lui dit « là tu couds », Hergé, c'était les initiales hein, de mémoire, et sur les autres, idem, cette injonction, elle l'interprète au sens littéral du terme, et donc elle fait une première serviette avec ces deux initiales-là, et sur toutes les autres, elle coud « idem, 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 idem ».
C'est un petit gars que j'ai pris dans les albums. J'ai juste remplacé les initiales pour rendre en passant un clin d'œil à Hergé, évidemment. Mais...
Alors là, vous vous moquez de sa peut-être de sa sottise ou de sa bêtise, ou au contraire, vous plaidez l'humour gentil pour un personnage joli.
Ouais, c'est un personnage qui veut vous faire plaisir, donc si vous lui dites là vous cousez Hergé et là idem, elle veut vous faire plaisir, donc elle va coudre idem sur les autres, quoi.
Mais en même temps, elle est inventive et elle va créer des choses là où les autres se laissent emporter aussi par l'air du temps. On va peut-être quand même revenir ensemble sur l'histoire de ce personnage de bande dessinée très populaire. Vous l'avez découvert, Bruno Podalydès, dans les livres. C'est-à-dire que vous avez des souvenirs d'enfant de ce personnage qui était Bécassine.
En fait, j'avais le souvenir, comment dirais-je, graphique du personnage de Bécassine, je me souviens qu'il c'est pour une sorte de pré-Tintin, de par son visage qui ressemble au héros d'Hergé, et c'était plus et d'ailleurs j'ai travaillé beaucoup plus sur les dessins que sur le texte. En fait, j'ai photographié les petites des vignettes comme ça en feuilletant les albums qui m'intéressaient, quand elle tape sur un fauteuil, quand elle tient en équilibre une pile d'assiettes, enfin des figures burlesques ou d'émotions, de mélange de rire et de chagrin. C'est comme ça que j'ai construit mon histoire, plus que par le suivi d'un album en particulier.
1905, elle n'est pas toute jeune, Bécassine, Pascal Horry. Ça veut dire que les petits garçons lisaient aussi Bécassine? C'était pas des bandes dessinées, des planches réservées aux filles, aux petites filles?
C'était a priori réservé aux filles, puisque ça paraissait dans un journal réservé aux filles, La Semaine de Suzette, aux filles de bonne famille, créé en 1905 par un éditeur qui deviendra Gauthier Langros, qui existe d'ailleurs toujours, la raison sociale existe encore. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que raconte Bruno Podalydès, c'est lié en particulier au premier, pas vraiment album d'ailleurs, aux premières publications qui n'ont pas été forcément réunies en album, qui étaient des historiettes avec une chute en bas de la page. Alors que quand on passe vers 1913 au scénario de Comrie, ça suit une certaine logique sur un album entier. Mais en tenant compte d'ailleurs de l'actualité, on en parlera peut-être dans un instant, mais... Au fond, le résumé de l'histoire du XXe siècle, c'est le passage de Bécassine à Gaston Lagaffe. Il y a quand même une part de continuité. Bécassine, au départ, c'est effectivement un ressort comique qui remonte au Moyen-Âge, au fabliau du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on se moque du naïf ou au pire, du niais. Il y a un peu de ça au départ. Mais en réalité, comme elle occupe toute la page, comme elle occupe toute l'histoire, à la fin, c'est elle qui devient la personne active, ce qu'on voit bien dans le film.
Mais Gaston Lagaffe avait peut-être des origines moins déterminées.
Oui, mais justement, l'eau a coulé sous les ponts. Gaston Lagaffe, c'est les années 60. Hein. Et donc, on ne part pas de l'idée que ce serait un ego qui viendrait de sa province. Bon. Mais pour le reste, l'idée qu'on va introduire quelqu'un qui est, entre guillemets, naïf, Candide, hein, Candide de Voltaire, le Huron, etc., et qui fait tout bouger, ça, c'est une idée constante et très respectable.
Il y a quelque chose de très beau entre Lagaffe et Bécassine, c'est que ce sont deux personnages apparus involontairement. Bécassine, c'était pour terminer cette 16e page de la semaine de Suzette, on a improvisé un petit gag. Et Lagaffe a longtemps parcouru les pages de Spirou dans les années 50. Il laissait des traces de pas entre les textes. Et il était l'objet, c'était le héros, je sais plus comment il l'appelait, hors journal. Il était l'objet d'aucune planche. Il a vagabondé comme ça presque un an dans les Spirou jusqu'à ce que Fantasio se plante devant lui. Il lui dise, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il sait pas... Il n'est pas pourquoi il a été embauché, il n'est pas très drôle. Et cette vacance du personnage, je trouve assez joli qu'on parle de personnages niais, naïfs, et qui finalement deviennent des héros dans la
oui,
continuité.
Elle est la pièce manquante d'un magazine, mais le succès va être immédiat.
Pascal oui, Horry, hein. Tout à fait, parce que la semaine de Suzette va être le grand magazine pour la jeunesse, disons, des classes moyennes, voire encore plus aristocratique pendant une ou deux générations. Ça tient aussi beaucoup au dessin de Pinchon. Enfin, il faut préciser que dans la semaine de Suzette, il n'y a que Bécassine en bande dessinée. J'appelle ça de la bande dessinée, il y a une discussion, et le texte est en dessous de l'image, mais le dynamisme est tel que c'est clairement de la bande dessinée.
Alors Bruno Podalydès, vous multipliez les clins d'œil à la bande dessinée sans avoir voulu l'adapter de sa démarche si caractérisée avec les fesses en arrière et le buste, les bras en avant, très déterminée, volontariste aussi comme femme, au trait des visages dessinés sur les mannequins pour créer l'illusion de la fête au château. On retrouve un peu ce graphisme que vous évoquiez et qui est présent dans la bande dessinée que Pascal Horry a déployée devant lui. C'est les premières bandes dessinées.
Ça, c'est la première édition, j'en suis assez fier.
Quelle année du coup?
Alors ça, par exemple, pour les 100 métiers de Bécassine, c'est 1920. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça raconte une grève des chemins de fer. Donc c'est lié à l'actualité qu'on vient d'entendre. Les chemins de fer s'arrêtent, il y a le rouge et le noir, hein, donc le socialiste, le communiste et l'anarchiste qui arrêtent les chemins de fer, et la grève est brisée, elle est brisée page 15 comme dans la réalité, par un ingénieur des chemins de fer qui tombe la veste, qui retrousse ses manches de chemise et qui fait marcher le train, ce qui s'est passé en 1919. Donc c'est extraordinaire, toute l'histoire de France, même du monde, dans l'entre-deux-guerres, passe dans Bécassine.
Et alors ça, vous les avez chinés, vous les avez retrouvés
oui,
dans votre
grenier? Oui, je les ai chinés peu à peu, quand j'étais étudiant, je me suis ruiné pour ça. Je voulais ensuite collectionner toutes les semaines de Suzette, c'était un hommage à ma mère, c'est le docteur Freud toujours. Et puis là, je me suis rendu compte que mon seul concurrent s'appelait le baron de Rothschild, donc j'ai arrêté, parce que ça coûte maintenant très cher les collections de la semaine de Suzette.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une des forces de ce personnage de bande dessinée dans le livre, c'est que la bouche est rarement dessinée et que beaucoup passe par le regard ou par la posture, le corps de ce personnage, Pascal Horry?
Oui, enfin, il y a quand même parfois la bouche, hein, malgré tout. Mais justement, ça permet d'aller à l'essentiel. Je veux dire que ça, elle n'a pas sa langue dans sa poche, hein, de toutes les façons, au total, Bécassine.
Mm-hmm. Des qualités graphiques, vous les évoquiez, Bruno Podalydès. Dans la bande dessinée, déjà, le temps passe. Mais vous n'avez pas choisi de multiplier les scénettes comme ça l'était au départ, dans le magazine qui a publié ses bandes dessinées, ses planches de Bécassine. Vous avez choisi de montrer ses évolutions, comment elle grandit. Au début, elle a quoi, 6 ans à peu près dans le début du film, et elle devient femme par la suite, par quoi elle passe. Vous avez voulu en faire une sorte de film d'apprentissage, de lui donner vraiment vie à cette héroïne, comprendre ce qu'elle ressentait vraiment, ce qu'elle avait traversé aussi.
Oui, c'est comme prendre Zorro, et la première fois qu'il met son masque et sa cape.
Il avait quel âge?
Comment?
Il avait quel âge?
Zorro, il a commencé en 1919. C'est amusant de voir effectivement le temps passer, parce que Bécassine loulotte la petite fille dans les albums, grandit jusqu'à 18 ans, et Bécassine, elle reste la même. Il y a des conventions que je trouve amusantes d'accepter en BD comme au cinéma, puis elle grandit avec sa tenue aussi, donc c'est une petite invraisemblance qui ne pose problème à personne, c'est ça qui est amusant. Ouais.
Elle grandit, mais elle ne vieillit jamais dans la bande dessinée, Bécassine, Pascal Horry?
Non, elle ne vieillit jamais. D'une certaine façon, d'autres personnages peuvent vieillir ou changer. La marquise de Grantaire, d'abord vieillit et physiquement, et d'autre part, surtout, elle décline. C'est la décadence des élites traditionnelles après la guerre de 14. Franchement, on peut reconstituer toute l'histoire des sociétés. Ça bordaille Marcel Proust, hein, dans les années 20.
Alors, c'est pas le premier film réalisé sur Bécassine. Il y en a déjà eu un en 1940, le film de Pierre Caron. 1939, pardon. Exactement, le film de Pierre Caron, interprété par Paulette Dubost. Extrait.
Dites, mademoiselle, vous n'êtes pas la nièce à Corentin, par hasard?
Mais pas par hasard, je suis sa nièce parce qu'il est mon oncle.
Alors, c'est vous,
Bécassine?
C'est Bécassine, mais vous, je me disais.
Votre oncle dit partout que vous avez fait le tour du monde.
Oh, c'est en largeur et en longueur.
Alors, vous connaissez toute la Terre.
Oh, c'est comme ma poche. L'instituteur lui prétend que la Terre est ronde. Eh ben, moi, je m'en suis pas aperçue.
Avec qui étiez-vous?
Avec une vieille Anglaise d'Écosse, qui était sourde et muette. Ah, oh, et puis alors, comme elle n'entendait rien et qu'elle y voyait quick, eh ben, elle s'imaginait que tout était beau. Et là, c'est un beau jour, eh ben, il y a un docteur qui l'a guéri à Chicago, au Japon.
Chicago n'est pas au Japon.
Vous êtes sûr? Ça n'a pas changé? Bon, il y a eu tellement de bouleversements cette année.
Ah, ça c'est bien vrai. Alors comme ça, vous réintégrez clocher les bécasses.
Oui, 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 je rentre en service. Au château du Genet d'Or, là, chez Madame de Grantaire.
Là, on y entend la gouaille hein, aussi de ce personnage, Pascal Horry. Et déjà, le film fait polémique en 1939, au moment de sa sortie.
Tout à fait. Le parti national breton, le PNB, qui siège à l'extrême droite et qui va le prouver pendant la guerre, d'ailleurs, jusqu'à Berlin compris, puisque certains nationalistes, d'une branche extrême, il faut le reconnaître, s'installent à Berlin en 1939. Hein. Le PNB, à qui on doit le drapeau breton, qui flotte aujourd'hui sur toutes les mairies et édifices publics de Bretagne, le PNB appelle à manifester contre le film, menace les directeurs de salles en Bretagne de représailles, voire même de dynamitage, si on diffuse le film. Ce qui semble avoir été assez efficace en ce qui concerne la Bretagne, pour ce qui n'a pas vraiment compromis la carrière du film, qui a été plutôt compromise par la déclaration de guerre. C'était quand même là un enjeu beaucoup plus important.
Là, on sent
je pense quand même que le film, que je n'ai pas vu, mais de ce que j'en ai lu comme commentaire, était clairement assez condescendant à l'égard des Bretons, là, pour le coup. Parce qu'on est en 39. Hein.
Bon. Ça va, Bruno Podalides? Ouais, un
j'ai
peu
regardé
inquiet.
Ce film, il est vraiment, c'est pas du tout, j'ai arrêté de le regarder, mais je me suis dit, il va me décourager, c'est vraiment abétissant, en fait, sur Bécassine.
C'est-à-dire oui, que, c'est pas un très grand réalisateur,
Non, Paulette Dubosc est une très très grande actrice, mais là, c'était vraiment
Si je peux me permettre, la même année, elle tourne dans La Règle du jeu, de Renoir.
Est-ce que vous pouvez me confirmer une information que je trouve intéressante, que quand les Allemands ont envahi Paris, ils auraient été saisir les stocks de bécassines qu'ils jugeaient anti-allemands? Vous avez déjà entendu parler de cette histoire?
J'ai pas entendu parler de ça. Ça me paraît accorder beaucoup d'importance à bécassines, mais après tout, ils en ont fait d'autres du même
ordre. Elle tape sur les fauteuils en disant sale boche.
Ah bien sûr, la bécassine de 14 est d'ailleurs superbement dessinée, pas par Pinchon pour l'essentiel, parce que Pinchon était mobilisé. C'est absolument superbe, et évidemment c'est tout à fait patriotique. Oui.
Alors Pascal Horry, c'est une icône populaire, c'est aussi ce que nous dit Bruno Podalides, et c'est dans ce sens-là qu'il a voulu la réinterpréter. Comment est-ce qu'elle est devenue un personnage important de l'histoire culturelle? On comprend aujourd'hui, ou on peut quand même s'interroger, savoir s'il lui reste une part de modernité et en quoi elle peut nous parler aujourd'hui, mais d'abord, comment elle a réussi à prendre place dans l'histoire de la France, et de quelle France au XXe siècle?
Ben déjà parce que ses lecteurs, lectrices principalement, mais il y avait aussi des garçons hein, qui en douce lisaient ça, ont grandi. Moi je sais que c'est comme ça que s'est fait la transmission en ce qui me concerne. Ma mère l'avait lu et me l'a fait lire quoi, en quelque sorte. Et puis par ailleurs, tous ces personnages populaires, ça dit quelque chose d'une société. Une société s'y retrouve avec tendresse, même en vieillissant. Hein. Ceci posé, c'est lié aussi à la respectabilisation, comme on dit maintenant de façon un peu pompeuse, de la bande dessinée. Aujourd'hui, l'histoire de la bande dessinée est bien connue, bien traitée. Un mouvement de bédéphiles s'est créé. Vous savez, les premiers bédéphiles s'appelaient Alain Resnais et Edgar Morin, donc c'était pas n'importe qui.
Mais c'est quand même une France plutôt rurale, plutôt cléricale, plutôt châtelaine que nous raconte aussi Bécassine, mais c'est quand même une France qui est en transition. On y voit le déclin à la fois économique et culturel que le pays est en train d'affronter, de cette petite noblesse ou de cette grande bourgeoisie traditionnelle qui est quand même secouée dans ses fondamentaux. Est-ce qu'on peut dire en ce sens que c'était aussi une bande dessinée engagée, comme l'évoquait Bruno Podalides à l'instant, sur la question du rapport avec les Allemands, très engagée ou inscrite dans son temps?
engagés, pas vraiment, on les aurait beaucoup étonnés en disant ça, d'ailleurs c'était un mot un peu anachronique à l'époque, mais qui se saisit de l'actualité pour s'en moquer, pour en tout cas, pour en sortir quelque chose de comique. C'est ça l'essentiel. Mais vous savez, il y a des allusions aux élections de 1924, il y a même une allusion assez étrange à ce qui se passe en Tchécoslovaquie en 38. C'est assez passionnant de retrouver ça. Je ne suis pas sûr que l'électrice de base s'en rendait compte, hein, mais le scénariste, lui, oui. Alors, qui était quand même le patron de l'entreprise.
Le personnage que vous incarnez, Bruno Podalydès, dans votre film, Bécassine, est celui qui apporte la modernité à la campagne, mais aussi qui va faire chuter, déclasser cette famille, cette marquise, par toutes les combines qu'il est en train d'essayer de mettre en place avec Paris, avec la capitale, qui finalement reste au loin dans le film, Bécassine n'ira jamais, mais dont il apporte presque les mauvaises nouvelles.
Oui, en fait, ce qui m'a amusé au départ, c'était le nom de Rastakouéros, parce que j'imagine qu'il a influencé Hergé pour son Rastapopoulos. Donc j'ai surtout gardé le nom, sous-entendu la racine Rastakouer, c'est-à-dire l'étranger, grec en plus, les triches et les grecs, j'avais un livre qui s'appelait comme ça. Beaucoup de magiciens se faisaient passer pour grecs dans leur entourloupe avec les cartes ou le bonneteau, etc. Bref, j'aimais bien l'idée que ce personnage ou en couleur, un peu Arsène Lupin, enfin la croisé de nombreux personnages, de figures classiques de fiction, soit l'élément perturbateur et évidemment aussi celui qui, grâce à l'accueil que lui donne la marquise de Grantaire, est quelqu'un qui apporte la gaieté malgré tout. La marquise accepte de perdre de l'argent, j'ai illustré ça par ce lustre qui perd ses pampilles au jour le jour, qui fait à la fois aussi évidemment sablier, mais... Fondamentalement, c'est surtout le montreur de marionnettes quoi, qui m'importait, c'est-à-dire aller toucher chez le spectateur, surtout aux enfants, encore une fois, c'est vraiment à eux que je m'adresse, aller toucher les émotions primitives du spectacle.
Le magicien.
Magie et surtout marionnette, c'est-à-dire le premier jouet qui est la main. Et donc, je propose un spectacle dans le film dont l'intrigue est quasiment réduite à zéro, c'est juste des marionnettes qui s'entrechoquent, et la petite fille que j'ai filmée rit, ça me réchauffait le cœur quand je tournais la scène, parce qu'elle riait vraiment de mes onomatopées, de mes bousculades, et ça me renvoyait évidemment à cette scène des 400 coups qui m'avait tant bouleversé chez Truffaut.
Et chez Guignol, qui a continué à éveiller à chaque fois les mêmes réactions chez les enfants quand il s'agit de retrouver le bandit. Pascal Horry, ce personnage du grec, du magicien.
On voit bien la dimension autobiographique, évidemment, et c'est très bien que ce soit Bruno Podalydès qui ait pris ce rôle qui est au départ assez problématique et qui se révèle très positif, mais c'est conforme à la bande dessinée et qui va contre l'idée que la bande dessinée de Bécassine serait grosso modo très à droite. Bon, elle est plutôt conservatrice, paternaliste, tout ce qu'on veut, patriotique évidemment, ce qui n'est pas forcément à droite à l'époque. Mais en revanche, elle est beaucoup plus à gauche que Hergé, parce que Rastapopoulos reste un méchant jusqu'au bout. Et, Rastakouéros, en revanche, se révèle un bon zig, finalement. Et ça se voit dans un album qui dit tout, qui est Bécassine à clocher les Bécasses, qui a été un élément important certainement de la réflexion scénaristique de Bruno Podalydès, où tout est raconté. Et Rastakouéros est apparu légèrement après Rastapopoulos. D'une certaine façon, ça tempère la xénophobie incontestable de Hergé.
Un collectif de militants bretons appelle donc aujourd'hui encore au boycott du film, qui par sa caricature serait une insulte à toutes les femmes de Bretagne, la mauvaise réputation toujours de Bécassine, on y revient. Thierry Compin, qui est le réalisateur d'un documentaire « Nous n'étions pas des Bécassines » réalisé en 2005, avait donné la parole à celles qui, comme des milliers de jeunes femmes, jeunes filles bretonnes, ont été employées comme bonnes à tout faire dans le Paris des années 50. On peut écouter d'abord un extrait de ces femmes devant la caméra de Thierry Compin.
Ben, je suis devenue petite bonne d'une part parce que j'étais bretonne. Hein, c'était un petit peu le sort de toutes les bretonnes.
Mes parents me disaient, il faut que tu trouves du travail. On va continuer à te nourrir. Alors vous savez que c'était très très dur. Hein. Même à mon âge, des fois je ressens ça encore qui me tape dans la tête. Hein. Avec le recul, il fallait travailler.
Il y a quand même une réalité, Pascal Horry, pour ces femmes bretonnes, qui a été l'émigration, que ce soit à Paris, à la capitale, ou plus tard vers les États-Unis. Il y a eu à un moment une situation de crise économique qui a fait que ces jeunes filles coûtaient trop cher pour leur famille et il fallait qu'elles partent travailler à la ville.
Oui, il y a des raisons démographiques. D'abord, la Bretagne est prolifique à cette époque-là et beaucoup d'autres régions. Moi, j'habite à Chartres dans la Beauce. La Beauce était déficitaire démographiquement. Beaucoup de Bretons se sont arrêtés à Chartres. Ils ne sont même pas allés jusqu'à Montparnasse. Et ils ont d'ailleurs repeuplé la Beauce d'une certaine façon. Et puis, il y a une raison quand même idéologique. C'est-à-dire que venant de Bretagne, étant supposé avoir été élevé dans une certaine docilité par le clergé catholique, c'était l'image caricaturale d'ailleurs qu'on s'en faisait, ces petites bonnes étaient supposées ne pas poser de problème. Donc tout ça s'est mélangé, mais c'est une situation dont on retrouve des traces avec d'autres noms que Bretagne aujourd'hui, à travers le monde. Hein. Mmh. Les Philippines qui sont esclavagisées en Arabie Saoudite.
Bon, oui, donc, et elle raconte, ces femmes, combien Bécassine leur a rendu aussi la vie encore plus difficile, difficile de se départir de cette caricature. On a du mal à imaginer, Bruno Podalydès, qu'un simple personnage de bande dessinée ait pu, à un moment ou un autre, projeter autant de symboles, cet archétype qu'elles ont dû, elles, vraies héroïnes du quotidien, porter sur leurs épaules quand même, hein.
Oui, disons, enfin, pendant 8 ans, Bécassine n'a pas été bretonne à mes yeux, et c'est assez drôle. C'est pour moi un personnage de papier. J'insiste là-dessus, qui est devenu un porte-parole de, où je suis pas une représentante des Bretons, mais j'ai vu aussi une affiche où on voit Bécassine fesser le capitaine de la Mouko Cadiz, une affiche où Bécassine est le point levé pour le PSU. Donc cette pauvre petite jeune femme était instrumentalisée un peu dans tous les sens. Ouais.
Oui, elle a pu être aussi récupérée pour devenir une figure de lutte pour certains. Une des questions que pose ou se pose Thierry Compin, c'est pourquoi aujourd'hui faire un film sur Bécassine ? À qui elle parle ? Et est-ce qu'en réveillant ce personnage, en le remettant à l'écran, Bruno Podalydès, d'une certaine manière, vous ne réveillez pas un souvenir, une mémoire qui s'est certes d'une manière ou d'une autre transmise d'une génération à l'autre, mais qui aujourd'hui tente cette blessure d'être réparée et peut-être aussi oubliée. Justement, ouais. La vie de toutes ces femmes qui ont dit à un moment partir, jeunes filles, vers la ville pour y trouver du travail, ont été séparées de leur famille.
Oui. Bah déjà, tant mieux si grâce à ce film pour enfants, on s'intéresse de nouveau à l'exode rural en Bretagne au début du XXe siècle. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
Pour vous, il nous parle encore aujourd'hui, ce personnage ?
Mais oui, parce qu'en fait, je ne suis pas l'avocat des albums de Joseph Porphyre Pinchon et Jacqueline Rivière, mais il y a un malentendu, à mon avis, au départ. C'est-à-dire je trouve qu'il n'y a rien contre la Bretagne dans les albums. Et jamais Bécassine n'est humiliée, méprisée, au contraire. Il y a une très belle poésie dans le personnage qui mérite aujourd'hui d'être plutôt réhabilité. J'aimerais bien que les Bretons, au contraire, se réconcilient avec Bécassine.
Pascal Horry, le dernier.
En tous les cas, si on parle du film, il n'y a rien de désobligeant à l'égard des Bretons.
Mais c'est pas ce que
et le personnage de Bécassine est évidemment le personnage positif dont tout spectateur normalement constitué, mais tous les spectateurs ne sont peut-être pas normalement constitués.
C'est un beau personnage de femme pour vous, Pascal Horry, Bécassine.
Bah, c'est un beau personnage tout court, je ne vais pas rabattre à chaque fois sur le genre, c'est un très beau personnage tout court, très poétique et qui va assez profond.
Voilà, votre film sort en salle, Bruno Podalydès, on est quel jour ? Demain ?
Demain, le 20,
voilà. Oui. Merci beaucoup à vous et merci Pascal Horry d'être venu nous accompagner dans cette discussion autour de Bécassine. France Culture, il est 12h30, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de La Grande Table.